intervenir.
Au 01 45 24 7000, Pierre nous appelle de l'Ardèche. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Eh bien écoutez, je suis un peu effaré par les déclarations de Jean-Marc Ayrault. Notamment, ils imaginent qu'une résolution de l'ONU va régler le problème syrien, alors que des tas de résolutions ont été prises concernant le problème israélo-palestinien, notamment l'illégalité du mur, l'illégalité des colonies, et absolument aucune suite n'a été donnée. Donc je pense que ce sera exactement pareil pour la Syrie. J'imagine qu'un enfant syrien a la même valeur qu'un enfant palestinien. J'aurais aimé sa réponse.
Et vous pensez qu'il faut régler le problème syrien en dehors de l'ONU et...
En vertu de quoi l'ONU solutionnerait cette fois le problème syrien alors que rien n'a été fait concernant le problème palestinien.
Merci Pierre.
Oui, écoutez, je comprends votre colère par rapport à la poursuite de la colonisation dans les territoires palestiniens parce que je la partage. Elle est dangereuse et inacceptable. C'est la raison pour laquelle la France ne se contente pas de faire des propositions au Conseil de sécurité, mais a pris l'initiative d'une conférence internationale qui s'est réunie le 15 janvier pour relancer la perspective de deux États. Il y avait 70 États présent. Il y avait de nombreuses organisations internationales. Au Conseil des Affaires étrangères européens, je cesse de défendre cette grande cause qui est celle de la paix au Proche-Orient et qui passe par la constitution de l'État palestinien. Et nous ne cesserons pas de nous battre, et c'est la position de la France. Je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté à ce sujet. Simplement, vous vous découragez de la faiblesse du Conseil de sécurité. Mais enfin, s'agissant de la Syrie, un des problèmes, c'est que la résolution que nous avions présentée pour condamner, par exemple, les attaques sur Alep, ou encore l'usage des armes chimiques, sont à chaque fois contrevenues par l'utilisation de la Russie, par son veto. Et donc, il faut absolument convaincre la Russie qu'il faut changer. C'est pas en ayant une position de blocage qu'on fera la paix en Syrie. Donc, je vais en Italie, au G7, dans cet esprit, c'est-à-dire comment créer à nouveau un vrai dialogue pour que les négociations à Genève reprennent le plus vite possible en Syrie.
Christophe nous appelle de Paris. Bonjour Christophe.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Je vous appelais pour poser une petite question. Pourquoi avons-nous soutenu les Casques Blancs, qui est en partie une organisation terroriste, financé par le MI6 à la base.
Terroriste ?
Ouais,
les Casques Blancs ?
Et puis qui sont oscarisés à Hollywood quand même. Bon, c'est un article de CNN là, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, justement, dénonçant l'activité terroriste en dehors des... Donc on soutient cette organisation-là, et qui en plus fournit toutes les images, entre guillemets, de l'attaque chimique. Un peu comme Naguta, où grosso modo, le régime de Bachar el-Assad a été... dédouané de l'attaque chimique de la Ghouta.
Ah
maintenant,
bon
on remet le couvert.
Dédouané par qui, monsieur?
Par l'ONU.
Ah bon? Ah non?
Oui, oui.
Bah, je crois pas, non. Mais,
enfin.
Non.
Bah, les Casques Blancs, monsieur, je les ai rencontrés à plusieurs reprises, et leurs responsables, ce sont des Syriens qui ne font pas la guerre, mais qui, justement, sous les bombardements, dans des conditions épouvantables, on les a beaucoup vus à Alep, on les a reçus à Paris, font un travail au péril de leur vie. Il y a eu énormément de morts dans les Casques Blancs. Ce sont des bénévoles qui font un travail de secouriste, qui essaient de sauver des vies dans une guerre atroce. Donc, je crois que l'occasion, c'est pas de les dénoncer. Alors, c'est vrai que le régime les fait passer pour des alliés des terroristes. Ça l'arrange bien, puisqu'on a une propagande permanente, y compris relayée par les alliés de Bachar el-Assad, pour dénigrer tous ceux qui ne sont pas pour Bachar el-Assad et son régime, et les qualifier de terroristes. Il y a des terroristes en Syrie, c'est vrai, mais il y a aussi beaucoup de gens qui aspirent à une Syrie libre et démocratique. Et ces gens-là, j'ai parlé beaucoup avec eux, y compris sur le plan politique, c'est leur espoir, c'est leur rêve, et je peux vous dire qu'ils méritent vraiment qu'on les salue, qu'on salue leur courage.
Ce qu'on vient d'entendre, c'est exactement la position effectivement du régime de Bachar el-Assad, qui qualifie tous ses opposants de terroristes sans distinction. Et j'ajoute que dans un conflit, il n'y a rien de pire ou de plus tragique que de confondre ou d'intervertir les bourreaux et les victimes. Firas nous appelle de Lyon. Bonjour Firas.
Oui, bonjour.
Merci
de me donner la parole. Je voudrais juste réagir au monsieur qui est intervenu juste avant. Je suis syrien. Et c'est très difficile d'entendre ce négationnisme sur les Casques Blancs, cette souffrance qu'on endure, nous, Syriens, mais en plus, on doit se justifier sur le fait qu'Assad nous massacre au quotidien. Donc c'est inadmissible d'accuser comme ça des gens qui œuvrent pour sauver les victimes sous les bombardements. Vous voyez, donc mon intervention, elle est dans ce sens-là. Je voulais demander à Monsieur Ayrault pourquoi il est temps, peut-être, de donner des armes de défense anti-aérienne aux rebelles. Il faut savoir que Poutine a bombardé 122 fois des hôpitaux. 122 fois. Donc peut-être que donner des armes, ça va peut-être le pousser à venir négocier. Et c'est vrai qu'on dit qu'on a peur que ces armes tombent dans de mauvaises mains, mais c'est pas vrai parce que les unités de défense antiaérienne peuvent être tracées, peuvent être suivies. Et aujourd'hui, il faut rappeler que c'est les rebelles qui ont payé le plus lourd tribut face à Daesh et non pas Assad.
Merci.
Nous ne voulons pas rentrer, je vais être franc avec vous, monsieur, nous ne voulons pas rentrer dans une logique de guerre. La France n'est pas belligérante, elle n'est pas sur le terrain comme sont les Russes ou les Iraniens et toutes les milices, le Hezbollah, y compris les Turcs d'ailleurs, sur la partie proche de leurs frontières. Nous ne sommes pas dans la guerre, nous combattons Daesh, mais nous ne voulons pas rentrer dans une logique implacable qui, elle, ne peut conduire qu'au désastre. Donc c'est ce que nous souhaitons vraiment après cette tragédie de nouvel usage des armes chimiques, c'est qu'il y ait une prise de conscience. Donc nous allons y travailler, c'est l'objet de notre réunion du G7 et la rencontre que nous allons avoir aussi avec les pays arabes et la Turquie mardi matin, en Italie également, pour vraiment engager une discussion avec les Russes, pour leur dire que c'est leur intérêt aussi d'arriver à rentrer enfin dans un processus de négociation. Il y a une espèce de spirale de la violence dont ils vont finalement, eux aussi, finir par être les victimes. Il ne faut pas croire, quand je suis allé à Moscou, j'ai parlé avec Poutine ou avec Lavrov, et à chaque fois que je parle avec lui, lors de mes rencontres, encore la semaine dernière, je dis, vous allez aussi finir par être vous-même, dans votre pays, être victime du terrorisme, à vous engager dans cette logique implacable de soutien à un régime d'une telle nature. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est produit à Saint-Pétersbourg. Malheureusement, ça peut se poursuivre. Donc nous avons un intérêt commun à travailler à la paix, les Russes comme nous. Donc c'est à ça que nous allons travailler, à essayer de voir comment nous pouvons le plus vite possible créer les conditions d'un retour à la négociation à Genève, où l'opposition syrienne est représentée et il faut absolument que ça soit à nouveau l'étape suivante, pas celle du bombardement.
Quand on parle de bombardement, Jean-Marc Ayrault, on parle d'action aérienne. L'attaque chimique de la semaine dernière a été menée lors d'une opération aéroportée. Est-ce qu'il n'est pas possible d'imaginer, comme ça a été fait dans un premier temps en Libye, je sais bien que l'exemple fait toujours frémir parce qu'il a effectivement ensuite dégénéré, mais comme dans un premier temps en Libye, est-ce qu'il n'est pas possible d'imaginer une zone d'exclusion aérienne, une façon de clouer les avions au sol et d'empêcher les bombardements.
Ce que je propose là, que je propose depuis l'Assemblée Générale des Nations Unies en septembre, que je vais reproposer là, et qui n'a pas été accepté ni par les Américains ni les Russes jusqu'à présent, c'est de mettre en place un mécanisme international sous le contrôle des Nations Unies, avec des observateurs sur le terrain, agréés par tous, pour justement empêcher l'envol des avions du régime, et pour qu'il n'y ait plus de bombardement. Ce mécanisme n'existe pas. L'accord de cessez-le-feu qui est intervenu à Astana et qui était garanti par la Russie, l'Iran et la Turquie ne fonctionne pas, puisque nous avons en permanence des bombardements. Des avions qui décollent, des avions iraniens, des avions syriens et même des avions russes. Il faut contrôler ça. Et à ce moment-là, c'est sous le regard de la communauté internationale, avec des observateurs agréés par tous, qu'on pourra empêcher. C'est la première étape. L'étape du cessez-le-feu, c'est l'étape indispensable, qui doit permettre l'accès de l'aide humanitaire qui n'arrive pas. Il y a des tragédies sur le terrain. Et puis ensuite, on reprend la discussion politique le plus vite possible. C'est ça la position de la France. Et c'est la position constante de la France. Elle n'a pas changé.
Quelle est la responsabilité de la Russie ?
La Russie considère que en dehors de Bachar, il n'y a que des terroristes, et que sauver le régime, c'est sauver la sécurité. Nous n'avons pas cette analyse. Nous avons une analyse différente. Il faut à la fois lutter contre Daesh et les groupes qui s'y rattachent, et qui sont effectivement nombreux en Syrie, comme en Irak. Il faut les combattre. Nous les combattons dans le cadre de la coalition internationale. Mais pas de solution durable en Syrie s'il n'y a pas un processus de transition politique et l'instauration d'un régime qui soit accepté par les Syriens et qui permette le retour des réfugiés et la reconstruction. Ça, c'est le volet politique. Et il faut absolument arriver à convaincre les Russes. Alors, officiellement, ils l'admettent. Puisque la base juridique, c'est la résolution 2254 du 15 décembre 2015, ils l'admettent. Mais il ne suffit pas de l'admettre dans les mots, il faut l'admettre dans les actes, et donc être un partenaire actif à la négociation pour la transition politique à Genève. Et je plaide pour que cette négociation politique reparte sur de nouvelles bases, mais vraiment, j'en appelle à l'esprit de responsabilité le plus vite possible. Sinon, on est toujours dans cette logique destructrice, cette logique de guerre, cette logique de violence, et qui conduit au désastre, et qui continuera de nous menacer, parce que c'est pas ça nous concerne, ce qui se passe là-bas. Bien entendu, ça nous concerne à la fois sur le plan humain, sur le plan de la solidarité, parce que les témoignages du Syrien et les propos sur les casques blancs sont là pour le rappeler. Mais en plus de ça, parce que la menace, elle vient chez nous aussi. Il faut en être conscient.
Il nous reste 2 minutes, Jean-Marc Ayrault. Dans 13 jours, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour de l'élection présidentielle. Pour qui allez-vous voter ?
Je voterai en prenant mes responsabilités. J'ai dit que je ne donnerai pas de consigne de vote. Je vote à gauche, j'ai toujours voté à gauche. Je suis fidèle à ma famille socialiste. Et en plus de ça, je dois vous dire que je ferai tout pour éviter de me retrouver comme le 21 avril 2002. Hein, j'en ai gardé un très très mauvais souvenir. Donc il y a deux candidats que je combats en priorité. C'est François Fillon, l'ancien Premier ministre, dont on sait qu'il a amené une politique très dure, mais que là, il veut l'amener encore plus dure. Sans parler de l'image désastreuse qu'il donne de la politique. Puis Marine Le Pen, que je combats de toutes mes forces depuis toujours, et je ne suis pas le seul, et qui vient de montrer à nouveau son vrai visage, là, hier, quand elle a considéré que la honte du Veldiv, là où on avait renfermé ces familles de juifs pour les envoyer dans les camps de concentration, avec les forces françaises, que ce n'était pas la responsabilité de la France. Heureusement, il y a eu des grandes voix. Il y a eu notamment Jacques Chirac, puis après François Mitterrand, qui a confirmé cette position, qu'il y avait une responsabilité de la France. Bien entendu, il y avait une responsabilité des nazis, des Allemands, de ceux qui occupaient la France. Mais pourquoi vouloir renoncer à dire la vérité ? Et donc, ce parti qui prétend changer de visage, qui prétend la fille dire un discours différent du père, en fait, c'est la même chose. Cette fameuse, distinction n'existe pas. C'est une fable. La réalité, c'est que pour Madame Le Pen comme pour son père, la honte du Veldiv, c'est au fond un détail de l'histoire, mais un détail tragique.
Vous voterez à gauche, donc ?
Oui, je voterai à gauche.
Précis.
Écoutez, je prendrai mes responsabilités. Je veux, au deuxième tour, être comme beaucoup de Français, ne pas être coincé par ce que je dénonçais il y a quelques instants. Je n'ai pas envie qu'on mette notre pays à genoux avec la politique de purge de François Fillon, une purge de punition où on demande des efforts aux autres qu'on n'est pas capable de faire pour soi-même.
Ça, j'ai compris. Mais à gauche, ça veut dire
Le Pen qui nous mettrait.
Mais quand vous dites à gauche, ça veut dire pas forcément pour le candidat investi par le Parti Socialiste.
Je prendrai mes responsabilités au moment où ça me paraîtra essentiel.
Donc pas forcément pour Benoît.
Et je ne vous le dis pas, puisque à l'époque des consignes où des dirigeants comme moi ou des responsables comme moi disent ce qu'il faut faire, je pense que les Français prendront leurs responsabilités, je leur fais tout à fait confiance. En tout cas, je suis un homme de gauche et je serai fidèle à ma famille socialiste.
Emmanuel Macron, il en fait partie de cette famille ?
C'est pas la question que vous m'avez posée. Je suis pas. Je vous demande ce que je pense et ce que je ferai. Donc j'essaie d'être le plus clair possible. Et s'agissant de ma famille socialiste, elle est effectivement à la peine en ce moment. J'en suis bien conscient. Il y aura aussi tout un travail de reconstruction à faire, de refondation sûrement. Mais je pense pas que la fin des partis politiques soit arrivée. Mais tel qu'il fonctionne aujourd'hui, sûrement. Il y a sûrement beaucoup de choses à changer. Je suis bien placé pour vous le dire et j'en suis convaincu. Et puis, il faut aussi préparer une autre étape entre-temps qui sera la préparation des élections législatives. Et là, on aura bien besoin de soutien et en particulier, moi j'espère qu'il y aura à l'Assemblée nationale encore beaucoup de députés socialistes.
Bonjour Augustin Trapenard.
Salut Patrick.
Vous avez une question pour notre invité ?
Oui, bonjour Jean-Marc Ayrault. Une question sur les images, parce qu'on n'en a pas parlé, leur diffusion dans les médias, l'émotion qu'elles inspirent, leur influence surtout aujourd'hui, depuis la photo du petit Elan jusqu'à la une de Libération la semaine dernière, où on voyait, vous vous souvenez, ces enfants victimes d'une attaque chimique en Syrie. Faut-il pour vous les montrer, ces images ?
On m'a posé la question déjà concernant ces enfants, ces images. Il y a eu sur Twitter, sur les réseaux sociaux, toute une polémique, il ne fallait pas les montrer. Mais c'est un fait. Et vous savez bien quelle est l'importance de la photographie. Quand on regarde les livres d'archives, les photographies de journalistes, c'est remarquable. Et c'est parfois des photos qui sont très douloureuses, qui sont parfois dures à voir. Mais elles ont permis aussi des prises de conscience. Il ne s'agit pas de tomber dans le spectaculaire et le morbide. Mais quand on fait un travail d'information, l'image en fait partie. Il ne faut pas avoir peur, des fois, de frapper les esprits. Et là, je pense que ça a aidé à prendre conscience que le régime de Bachar el-Assad, c'est vraiment une horreur.